Bonjour à tous. Et sur Zoom aussi, ça fonctionne Zoom, Emmanuel? Parfait. Je vais partager avec vous ce que Dieu m'a enseigné. Je reprendrai la suite de ce que j'ai partagé avec vous en 2020. Je dirais même depuis fin 2019, une série de quatre sur Colossiens que j'avais arrêté à la fin du chapitre 2. Nous allons reprendre les quatre premiers versets du chapitre 3. Et parce que je me suis aperçu qu'il y avait un lien avec ce que j'ai partagé avec vous il y a 15 jours à partir de la vie de Moïse et de la foi dont Moïse avait fait preuve pour renoncer à l'Égypte. Et combien la parole de Dieu nous exhorte, nous encourage, nous commande, Jésus nous a commandé de renoncer au monde, voire à nous-mêmes. Et le monde, c'est notre Égypte à nous. Et Moïse a pu le faire par la foi. Aujourd'hui, dans le chapitre 3 de Colossiens, de la lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Colosse, et qui nous est parvenue aujourd'hui jusqu'à nous, c'est un peu, je ne dirais pas le même thème. On va lire d'abord le texte. Je lis dans la version Semeur. Si tu veux bien, Emmanuel, nous mettre le texte. Merci. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Dans certaines versions, il est dit ici, ainsi donc, ou puisque vous êtes ressuscités aussi avec Christ. Recherchez donc, ça c'est un mot favori de Paul, donc, les réalités d'en haut, ou dans d'autres versions, ce qui est céleste, les choses célestes. Là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, j'ai un petit souci, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. Nous avons ici, premier verset, deux verbes qui sont deux verbes d'action et qui sont à l'impératif. Donc ce sont des ordres. Impératif. On pourrait dire que c'est un encouragement aussi de la part de l'apôtre Paul vers cette Église qui était aux prises à bien des enseignements et des philosophies dites vaines par l'apôtre Paul, des philosophies humaines de ce monde et qui s'attachaient à des choses terrestres et pas centrées sur Christ. Le premier verbe qui est utilisé qui est traduit par « rechercher » ou « chercher ». En fait, l'idée qui est rendue ici, c'est « j'ai cherché la définition de rechercher » dans le dictionnaire, des mots que nous employons très souvent. En fait, « rechercher », il s'agit de chercher de façon consciente, méthodique, insistante, et faire un effort pour trouver. Effectivement, quand on a perdu quelque chose ou lorsqu'on cherche quelque chose qu'on n'a pas vraiment nécessairement perdu, on y met l'ardeur, on y met des efforts, le but étant de trouver. On le fait parfois avec méthode, parfois pas. L'apôtre Paul dit « Recherchez ce qui est en haut ». Nous allons revenir tout à l'heure sur ce qui est en haut. Et le deuxième verbe qu'il emploie, qu'on traduit ici, « De toute votre pensée, tendez vers ». Et pourquoi ça a été traduit autrement que « recherchez » ?« De toute votre pensée ». Parce que ce mot-là est un mot qui, dans la langue du Nouveau Testament, qui est le grec, parle de la pensée. Ce qu'il dit là, c'est changer, réorienter votre mental, votre pensée. C'est ce qu'il est en train de dire. Et préoccupez-vous, attachez-vous, affectionnez-vous à ce qui est en haut. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Vers les réalités d'en haut. Tendez de toute votre pensée vers les réalités d'en haut. Vous remarquerez qu'il parle de réalité. La dernière fois, nous avons parlé de choses invisibles, de ce qui est invisible. De quoi parle-t-il lorsqu'il parle d'en haut? Est-ce que c'est dans l'espace, dans la stratosphère, dans l'atmosphère, dans les nuages? Aujourd'hui, on dirait dans le cloud, n'est-ce pas? Dans le virtuel? Non. Non, non, il parle d'une réalité. Ce qui est en haut, il le précise tout de suite. C'est un lieu là où se trouve Christ. Là où se trouve Christ. En deux mots, ou en d'autres mots, en d'autres termes, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, là où siège Dieu. Tournez-vous de toute votre pensée, tendez vers le royaume de Dieu. Jésus le disait déjà dans Matthieu, Matthieu 6, verset 33. Beaucoup connaissent ce verset par cœur, il y a même un chant. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus disait ceci à la foule. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, c'est-à-dire la nourriture, le vêtement, etc., vous seront donnés par-dessus. Mais cherchez premièrement. C'est le même terme qu'il emploie que chercher ici. Tendez d'abord vers le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul l'oppose à une autre recherche et non à celle vers celles qui appartiennent à la terre. Tendez vers ce qui est en haut et non vers ce qui appartient à la terre. Ce qui est terrestre, par opposition, c'est ce qui va disparaître, ce qui n'est pas éternel, ce qui est matériel, ce qui est humain, c'est de ça qu'il s'agit. Ne pas focaliser nos pensées et nos recherches sur ce qui est humain. Donc, ce dont parle l'apôtre Paul ici, c'est un vrai changement, un changement complet de perspective, de priorité, de centre d'intérêt dans tous les domaines de notre vie. C'est ce qu'il est en train de dire, que nous devons orienter notre vie vers les réalités d'en haut, vers Dieu. Vers le royaume de Dieu, vers ce qui concerne Dieu. Pour quelle raison? Pourquoi dit-il aux Colossiens, tournez-vous, tendez de toutes vos pensées vers ce qui est en haut, vers Dieu. Premièrement, je vais vous le partager en quatre points. Premièrement, l'apôtre Paul dit, parce que vous êtes morts. Alors là, je vous apprends aujourd'hui que nous sommes morts. L'apôtre Paul dit à des chrétiens Vous êtes mort. Il le dit trois fois. Déjà dans le chapitre 2, au verset 20, puisque vous êtes mort avec Christ, à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, tous ces principes, l'esprit qui anime le monde, vous êtes mort à cela, vous êtes mort au monde. Mort veut dire séparé, on est bien d'accord. Ça nous a été rappelé hier après-midi, à l'occasion du départ de notre frère Laloyer, séparé physiquement. Vous êtes mort au monde. Et en fait, c'est ce que cela signifie, c'est ce que nous avons, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus dans nos cœurs, comme sauveur, qui avons accepté son œuvre à la croix, qui avons cru et qui l'avons témoigné en nous faisant plonger dans les eaux du baptême. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit aux Colossiens, vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Le baptême, c'est ce qu'il veut dire. Que par la foi, on était unis à Christ sur la croix. Et quand ils l'ont enseveli, nous aussi, nous avons été ensevelis avec Christ. Vous remarquerez que ces versets que je cite, il y a des petits points de suspension. On va revenir sur la suite des versets. Unis par la foi. L'apôtre Paul dit en Galates 2, 20, j'ai été, ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec Christ. La suite. Nous sommes morts, parce que nous sommes morts au monde. Nous ne devons pas rechercher les choses du monde et les principes et les idées et la manière de penser et de faire du monde en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes morts, mais nous sommes ressuscités avec Christ. L'apôtre Paul dit, vous êtes, puisque vous êtes morts, mais vous êtes aussi ressuscité, c'est notre texte d'aujourd'hui, mais vous êtes aussi ressuscité avec Christ. C'est aussi dans l'union avec lui, au chapitre 2, verset 12, l'union avec lui, que vous êtes ressuscité avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Ça fonctionne toujours par la foi. La foi, c'est notre essence. Nous avons vu la dernière fois que c'est nos yeux spirituels, mais c'est ce qui nous fait fonctionner. Le début de la vie chrétienne commence par la foi et se poursuit par la foi. Vous êtes aussi ressuscité avec Christ. En fait, la résurrection avec Christ, c'est une nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. On renaît. C'est Jésus qui le dit. Donc l'apôtre Paul n'a rien inventé. Des dizaines d'années après Jésus, l'apôtre Paul redit la même chose que Jésus. Dans Jean 3, à Nicodème, un docteur de la loi, un savant dans la parole de l'époque, dans l'Ancien Testament, un érudit, Jésus lui dit, à moins de renaître d'en haut, nous retrouvons encore notre en haut, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Encore moins y attacher ses pensées. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. Pourtant, Dieu nous dit, Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais si nous sommes nés d'en haut, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:20, le fait d'être né d'en haut, par la nouvelle naissance, nous changeons de patrie. Nous avons dans notre église pas mal de personnes de nationalité étrangère ou d'origine étrangère, Certains ont eu la nationalité française, ont été naturalisés. Ils doivent savoir, bien comprendre, ils doivent comprendre de quoi je parle. Lorsqu'on a une nouvelle patrie, on devient citoyen français. On a des intérêts nouveaux. Et de plus, nous devenons ambassadeurs. Et c'est quoi la mission d'un ambassadeur? Un ambassadeur, il est dans un pays étranger. Nous avons vu la dernière fois que nous sommes étrangers. L'apôtre Pierre dit, vous êtes de passage. Ça nous a été rappelé hier, à plusieurs reprises. Nous sommes de passage. Et nous sommes étrangers. Nous sommes en pays étranger. Étrangers à ce monde, morts à ce monde. Mais nous représentons, Jésus l'a dit, hein, vous êtes la lumière du monde, nous représentons Dieu. Nous représentons le royaume de Dieu. Nous sommes citoyens des cieux, dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3:20. Nous sommes citoyens des cieux. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Et il dit, de là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus. On va revenir là-dessus. Là, j'ai mis une petite image que vous ne voyez pas très bien. Simplement, c'est l'ambassade de France en Autriche. En fait, dans un pays, l'ambassade, physiquement, c'est le pays qu'il représente. J'ai entendu aux informations qu'une sportive aux Jeux Olympiques menaçait d'entrer dans son pays pas pour être félicitée a été recueillie par la Pologne, dans l'ambassade de Pologne. Elle s'est réfugiée dans l'ambassade. C'est comme si elle était allée dans le pays. Donc, nous, en tant qu'ambassadeurs, et notre Église, puisque l'apôtre Paul s'adresse à une Église, c'est comme une ambassade des cieux. Vous rendez-vous compte de la mission et de la responsabilité qui est la nôtre? Et l'apôtre Paul, dans tous les chapitres 2, quand il dit aux Colossiens, « Mais puisque vous êtes morts à ce monde, pourquoi vous vous attachez à des choses qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont pas de sens, et surtout, qui ne mettent pas Christ en premier ?» On va poursuivre. La deuxième raison pour laquelle l'apôtre Paul exhorte, encourage, ordonne, tendez vers ce qui est en haut. C'est parce que Christ est assis à la droite de Dieu. Il le dit, hein, là où se trouve Christ, mettez vos pensées là-dessus, mais au quotidien, mes amis. Là où Christ est assis et il siège à la droite de Dieu. Il est assis. Ça représente, quand on est assis, c'est généralement le repos. On peut être en activité assis, mais c'est généralement le repos. En tout cas, lorsque quelqu'un a remporté une victoire et s'assied, il y a toute une symbolique là-dedans. Dans Hébreux, je vous lis les premiers versets d'Hébreux, il nous est dit, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien, il nous est dit que Jésus siège. Dans le Nouveau Testament, c'est répété à plusieurs reprises. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, donc c'est encore plus vrai aujourd'hui, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Et je vais à la fin du verset. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, du Dieu majestueux. plusieurs reprises, il nous est dit que Jésus est remonté vers Dieu et il s'est assis à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est le symbole, c'est le signe de l'autorité. Mais savez-vous que Jésus, il n'est pas toujours assis. J'ai découvert ça pour la première fois. Depuis plus de 50 ans que j'entends, que je lis la parole de Dieu, j'ai découvert, je me suis rappelé, j'ai retrouvé cette vérité. Ça lui arrive d'être debout. Debout comme un avocat se lève dans la cour pour défendre. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un procès. L'avocat se lève pour défendre. Jésus est debout. Étienne, Jésus lui est apparu debout. Au moment où ils allaient le lapider, il fut rempli du Saint-Esprit, nous dit, acte 7, verset 56. Il leva les yeux au ciel et il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit ça à ses accusateurs. « Écoutez, il s'écria, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Imaginez-vous, ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté. Ils ont graissé des dents, nous dit la parole de Dieu. Et ils se sont mis en colère, ils se sont jetés sur lui. Quelle vérité! Mais ça a donné la force à Étienne. Moi, je suis convaincu que ça a été un puissant encouragement pour lui de voir Jésus debout, se lever. À la droite de Dieu, je disais donc, symbole de l'autorité. Là, j'ai mis une image qui n'est pas très nette. C'est parce qu'il y a la lumière, je pense. C'est un sceptre et une couronne, symbole du pouvoir, de l'autorité, avec la couleur rouge en plus. Jésus, il a dit à ses disciples, avant de monter au ciel, il leur a dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » On l'a chanté plusieurs fois. Dans tous les chants qu'on a chantés, il y avait cette idée, cette vérité. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples et baptisez-les. » Vous remarquerez l'ordre. « Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir. » Et voici, je suis moi-même, avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous sentons sa présence? Si vraiment nous sommes tournés, nos pensées vers Dieu, vers ce qui est en haut, ça se passe avec la parole de Dieu, la Bible. Ça se passe avec la prière qui s'adresse à Dieu. Il y a un homme d'origine, c'était un Indien. Certains peut-être ont lu ce livre, un de ses livres, le Sadhu Siddhar Singh, qui était un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu, qui a eu un ministère extraordinaire dans le monde. Il était hindou au départ. Cet homme, il dit, le chrétien doit vivre et travailler dans le monde. Ça, il n'y a pas de choix. Jésus a dit qu'on est dans le monde et il nous laisse dans le monde. Il ne demande pas à Dieu de nous enlever. Et son cœur, et avoir son cœur attaché au ciel. C'est la même idée. Attaché au ciel, où est sa demeure éternelle. Nous avons vu la dernière fois qu'être attaché aux choses d'en haut, c'est à des choses éternelles qui durent. Par la foi, mes amis, recherchons constamment la communion avec Christ. Dans sa parole, dans nos pensées, orientons nos pensées vers Christ. Christ, c'est le centre du message de la Bible, de la révélation de Dieu. C'est notre chef, c'est la tête de l'Église. Et la Bible nous dit dans 1 Jean, l'apôtre Jean nous dit que la victoire qui triomphe du monde, on a vu ce verset la dernière fois, c'est notre foi Notre confiance en Christ, elle triomphe du monde et de ses idées et de ses principes. C'est ça qui nous donne la force de renoncer et de nous tourner vers Dieu. La troisième raison, je vais aller plus vite ici, qui est pourtant l'essentiel de ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Vous êtes ressuscités, leur dit-il, et votre vie est cachée avec Christ dans le Dieu, si on traduisait littéralement. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, notre nouvelle vie, notre vraie vie, celle qui va durer au-delà de la mort, elle est cachée en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde ne voit pas forcément le sens, le secret de notre vie. Il en voit les manifestations dans nos témoignages, dans les fruits que nous portons, dans nos comportements, dans nos paroles. En tout cas, j'espère, ce n'est pas toujours le cas. Par la grâce de Dieu qui nous aide à vraiment refléter la vie nouvelle en Christ. Le secret, l'essentiel, le vrai sens de notre vie, le vrai sens de notre vie. On a réorienté notre vie vers Dieu, c'est en Christ le vrai sens de notre vie. Vous enlevez Christ et tout notre message, tout ce que nous annonçons, tout ce que nous croyons n'a plus de sens, est vide. Toute la force, le trésor, Jésus a dit que c'est le trésor, le but même de notre vie, il est en Christ. Et en fait, ça se passe, encore, ça se passe comme une oasis. Notre vie est comme une oasis, mes amis. Vous êtes dans le désert, c'est complètement inattendu qu'au milieu du sable et peut-être des pierres, quelque chose d'inexplicable à première vue, des arbres au feuillage vert, voire même avec des fruits. C'est ça notre vie. Dans ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons, qu'on pourrait comparer à un désert, et encore plus aujourd'hui, notre vie est comme une oasis. La vie de celui qui est né de Dieu, qui est né d'en haut, c'est une oasis. C'est vert, parce qu'il y a un secret, quelque part. L'eau. L'eau, la plante a trouvé l'eau pour nourrir, se nourrir par ses racines. Nous, notre vie, la source de notre vie, est cachée en Christ. C'est pour ça, c'est pour cela que nous devons le rechercher constamment dans la parole de Dieu et dans la prière. L'apôtre Paul disait en Galates 2:20, c'est toujours les mêmes textes que je reprends, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis en réalité, c'est Christ qui vit en moi. » Seulement, si on pouvait dire ça tous les jours. « Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est vrai, mais parfois nous effaçons un petit peu par nos comportements et nos attitudes. Il dit « Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu. » C'est ça qu'il veut dire quand il dit « C'est Christ qui vit en moi. » C'est par la foi, mes amis. C'est évident que Christ n'est pas, il n'est même pas présent physiquement. C'est par la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. On revient encore sur « Je suis mort. » Il nous a redonné la vie. La quatrième raison pour laquelle nous devons nous tourner nos pensées, toutes nos pensées et notre manière de vivre et l'orientation de notre vie vers Dieu, c'est que c'est de là-haut, encore en haut, c'est de là-haut que nous l'attendons. Est-ce que vous attendez, est-ce que nous attendons le Seigneur Jésus? Il va venir, La Bible dit que tout œil le verra. Mais il viendra à un moment donné et il ne va pas toucher le sol. Nous allons le rejoindre dans les cieux. Il viendra nous libérer de ce corps de mort, comme dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que notre corps est un corps de mort. Vous avez déjà transporté un mort ? C'est lourd. Il ne vous aide pas. Ce corps de mort que nous traînons, c'est le nôtre. Il va nous libérer de ce corps de mort. Et notre vraie vie va apparaître, s'il te plaît, Emmanuel. La Bible dit, dans Colossiens, là, dans notre chapitre, notre vraie vie va apparaître dans la gloire. C'est-à-dire, le frère nous a rappelé ça hier, pas de douleur, pas de souffrance, pas d'infirmité. Notre vraie vie va apparaître dans la gloire. Nous l'attendons. Philippiens 3:20, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons. De là, nous attendons ardemment. Ça, c'est toute la question. Nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de soumettre tout à son autorité. C'est d'en haut que nous l'attendons. Et vous voyez que j'ai mis, vous voyez peut-être pas très bien, mais je vous explique, c'est un quai de gare. Et les gens qui sont là regardent tous dans la même direction. Et c'est la direction du train qui arrive. C'est assez frappant sur un quai de gare. Personne ne regarde de l'autre côté. On regarde du côté où il vient. C'est un peu comme ça que nous devrions être, notre attitude d'esprit. Attendre. Nous attendons des cieux Jésus qui va revenir pour nous chercher. Il l'a dit dans Jean 14. Il a dit aux disciples qui étaient tremblants de peur quand il a annoncé qu'il allait mourir. Il a dit, je m'en vais. Et je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Dans quel but ? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi, dans les cieux. Nous retrouvons encore notre en haut. C'est notre demeure. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tendez vos pensées vers ce qui est en haut, vers Dieu et Jésus-Christ. Juste un rappel pour conclure de ce que nous avons partagé. Nous devons orienter notre vie vers la réalité d'en haut. Je suis désolé, j'ai tendance souvent à répéter tout le temps la même chose. Mais c'est pour qu'on retienne l'idée centrale. Nous devons orienter notre vie vers les réalités d'en haut. C'est ce que l'apôtre Paul a recommandé aux Colossiens et à nous. Et ce n'est pas que là qu'il le dit. Et l'apôtre Pierre le dit aussi ailleurs. Parce que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Parce que notre vie est en Christ. Parce que Christ est assis à la droite de Dieu. C'est pour ça. Il est à la droite de Dieu, donc c'est vers là que nous devons tourner nos regards, nos pensées. Parce que notre vie est cachée en Christ, avec Dieu. En fait, Dieu nous voit à travers Christ. Vous le savez, ça. Dieu nous voit à travers Christ. Sinon, il nous verrait comment ? Bien sale, bien impur. Il nous voit à travers Christ. Si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, il nous voit juste à travers Christ. Parce que d'en haut, nous l'attendons, le Christ. Nous attendons Jésus d'en haut. Ardemment. Et encore plus aujourd'hui, je vous assure. Je disais à mon fils, qui m'a souhaité mon anniversaire hier, il me dit que Dieu t'accorde la santé, les détails spirituels, etc., dans ce monde détraqué. Et je lui faisais remarquer qu'en vieillissant, de plus en plus, je me rends compte que j'aspire dans ce monde de plus en plus au retour de Christ. Quelques questions à méditer, comme d'habitude. Jouez pas forcément les réponses affichées. Que recherchons-nous le plus au quotidien? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Vers quoi ou vers qui nos pensées sont-elles orientées en permanence? Ou le plus souvent? Ça vaut le coup de s'interroger là-dessus. Quel est notre en début de journée, quel est notre but? Certes, nous avons des buts pour notre travail, notre maison, etc. Mais notre but le plus important en début de journée, ça vaut le coup de s'interroger là-dessus. Vous avez les réponses, vous les aurez, ou vous tournez autour. Je ne sais pas. À vous de voir. Et à vous qui ne croyez pas que Dieu existe, peut-être. Je pose aussi une question. Quel est le sens de votre vie? Vers quoi elle est orientée? Vers qui? Vers quoi? Vers cette terre? Vers vos biens? Vers votre carrière et que sais-je? La politique, peut-être. Savez-vous que la Bible dit que Dieu a fixé un jour où nous devons rendre compte de ce que nous avons fait de notre vie? Et si nous n'avons fait aucun cas de Christ, il ne sera fait aucun cas de nous. Si vous voulez en savoir plus, plongez-vous dans la parole de Dieu. Posez des questions aux frères et sœurs, aux gens que vous connaissez, qui connaissent le Seigneur Jésus. Mais nous aussi, chrétiens, nous allons rendre compte de ce que nous avons fait de notre vie. Il y aura une distribution de récompenses, savez-vous? La Bible parle du tribunal de Christ où il y aura des récompenses. Voilà, je vous laisse avec cela. Que Dieu vous bénisse et bénisse surtout sa parole. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, nous sommes effectivement assez confus face à ta parole et ce que tu attends de nous.